simples principes font que quand quelqu'un se revendique, se déclare mineur, il est considéré comme tel jusqu'au moment où il est démontré qu'il n'est pas mineur ou bien qu'il l'est.
On nous a demandé si on est des mineurs. On a dit on est des mineurs. Ils sont venus nous déposer sur la montagne. On nous a dit voici la direction de l'Italie.
L'une de nos motivations, c'est pas de se battre contre une politique d'immigration. C'est tout simplement de porter secours à des personnes en grand danger, surtout en ce début d'hiver.
Depuis le renforcement de la surveillance de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes, migrants et réfugiés empruntent de plus en plus la route des Alpes pour passer d'Italie en France. Cette année, plus de 1500 personnes sont arrivées à Briançon après avoir franchi le col du Mont-Genèvre ou le col de l'Échelle. Et les premières neiges ne dissuadent pas ces jeunes déjà passés par les geôles libyennes et qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Pour les habitants de la région, conscients des dangers de la montagne, difficile de rester insensible au sort de ces jeunes, souvent originaires d'Afrique de l'Ouest et majoritairement mineurs. Puisque les structures d'accueil départementales sont dépassées, puisque l'État ne protège pas ces jeunes migrants, l'un d'eux a eu les pieds gelés dans la montagne et a dû être amputé, la solidarité montagnarde s'organise, parfois à la limite de la légalité. Mais la loi est aussi contournée par ceux qui la représentent. Il y a quelques jours, des gendarmes ont laissé des mineurs non accompagnés dans la nature après les avoir simplement raccompagnés de l'autre côté de la frontière. Quand des mineurs africains sont abandonnés dans la montagne, c'est un magazine signé Raphaël Kraft. L'invité de ce magazine sera François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Également écrivain, il vient de publier un essai « Pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre raison ». C'est aux éditions Talendier. Je précise aussi que François Sureau préside l'association Pierre Claver qui accompagne l'intégration de réfugiés à travers l'apprentissage du français et la découverte de la culture. Nous le retrouverons tout de suite après avoir écouté votre reportage. Raphaël Kraft, bonjour.
Bonjour.
Raphaël, le sort des réfugiés vous préoccupe depuis longtemps. Il y a 2 ans, alors que vous étiez dans la région de Menton-Vintimille pour un reportage. Vous avez fait passer la frontière illégalement à 2 jeunes Soudanais du Darfour. Cet acte de désobéissance civile, vous l'avez raconté sur France Culture. Et ce récit est aussi devenu un livre intitulé « Passeurs » et paru chez Buchet-Chastel. Cette fois-ci, la démarche était différente. En fait, vous n'aviez pas spécialement l'intention de braver les autorités.
Non, j'étais parti en reportage pour France Culture. J'ai téléphoné au rédacteur en chef. Je lui ai proposé un reportage sur le Briançonnais parce que j'étais allé au mois de septembre sur le bateau l'Aquarius de SOS Méditerranée qui sauve des migrants qui viennent de Libye. Et je voulais voir si on pouvait faire des analogies entre le sauvetage en mer et le sauvetage en montagne. Et comme les premières neiges allaient arriver, je me suis dit que le Briançonnais était intéressant parce que effectivement les voies se septentrionalisent puisqu'on ne peut moins passer dans le sud, on tente de passer dans le nord, encore que dans le nord, eh bien, il n'y a ni Soudanais ni Érythréens du côté de Briançon, il n'y a que des gens d'Afrique de l'Ouest, on l'explique là un petit peu pourquoi tout à l'heure. Et j'ai rencontré effectivement une population tout à fait revigorante, puisqu'à Briançon, cette ville sonore de ne laisser personne dormir dehors. François Sureau est bénévole à l'association Pierre Claver, et surtout pas président.
À vous. Les présidents sont bénévoles, donc l'un n'empêche pas l'autre. Samedi dernier, Raphaël, samedi 11 novembre, vous vous trouviez à Névache, petit village de la vallée de la Clarée. Le maire d'Hiver Droite, Jean-Louis Chevalier, présidait la cérémonie de commémoration de l'armistice.
Voilà, merci d'être venus aussi nombreux pour célébrer ce 11 novembre. Je vais vous lire un texte de Pierre Bouvier, alors c'est pas l'ancien maire de Monnetier, c'est un ancien combattant de l'Isère, un poilu, qui a écrit ce texte en 1930. Je vous demande de retenir la date et ce qu'il dit. Des années ont passé, les clairons se sont tus, tes musettes avec ton casque sont au fond de l'armoire. Tu t'es remis au train commun, tu vas, gardant quand même ces souvenirs que tu ne livres pas. Tu t'enfermes dans ton silence. Cette fraternité d'hier demeure en toi, mais souvent, me semble-t-il, on la dirait inerte. Or, je te dis, elle doit veiller, elle doit agir, tu n'as pas le droit de t'endormir dans l'indifférence. Parce que nous avons fait à nos frères morts une promesse grande scellée dans le sang, parce qu'il y a des plaies à cicatriser encore. Ça t'étonne ? Et que tous les jours, il y a des hommes, des femmes, des enfants victimes encore de la guerre, qui, dans leurs besoins, parfois dans leur détresse, demandent aide et pitié. Tu dois nous aider à les secourir. Nous allons procéder à l'appel aux morts de la commune. Névache à ses grands morts. Chevalier Joseph.
Mort pour la France.
Robert Théophile.
Mort pour la France.
Franchon Jean-Marie.
Mort pour la France.
Tan Jean.
Mort pour la France.
Fort Jules.
Mort pour la France.
Et Sautier.
Mort pour la France.
Jean-Louis Chevalier, maire de Névache, ancien officier d'active. Monsieur le maire, le texte que vous avez choisi, c'est un choix habile qui s'adresse à toute la population de Névache en ces temps où la grande actualité arrive jusqu'ici, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On est confronté au passage des migrants en permanence sur notre commune et je pense qu'il faut que les gens soient bien conscients du fait que nous restons un pays d'accueil libre, ce qui devient de plus en plus rare dans le monde d'ailleurs, et que le maire étant responsable de la sécurité sur sa commune ne peut pas ignorer les dangers que vont courir tous ces gens.
Ici à Névache, généralement les réfugiés, migrants, exilés arrivent, sont épuisés, ils passent une nuit, deux nuits chez des habitants de Névache. Ensuite, ces habitants s'organisent, qui fait la lessive pour les draps, qui prépare à manger pour un groupe, qui organise un convoi pour les descendre à Briançon. Comment vous appréciez cet élan de solidarité ?
Névache fait preuve d'humanité, comme la Briançonnée fait preuve d'humanité. Maintenant, je peux difficilement me prononcer vis-à-vis officiellement, puisque un maire est en porte-à-faux, puisqu'il représente l'État. Mais il faut bien reconnaître que je ne peux que saluer ces actions-là. Voilà.
Village de Névache, un peu plus bas sous le col de l'échelle, avec Bernard Ligère, officier d'active, retraité. C'est ça ?
C'est ça. C'est exactement ça. Officier d'active retraité. Mais surtout pour le pays, ancien officier de chasseur alpin, retraité.
Donc ces jeunes adolescents, jeunes adultes, qui passent soit par le col de l'échelle ou les cinq cols alentour, ils arrivent à Névache, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui les accueillent.
Oui, alors les gens qu'on reçoit ici, c'est les gens qui sont passés par le col de l'échelle et qui ne sont pas en état de continuer. Bon. Ici, on reçoit des gens en très mauvais état. Hein. Des gelures, il y a eu d'ailleurs des amputations l'année dernière, des femmes enceintes même, qui ont traversé le col dans la neige en petites chaussures. Bon, donc il faut les rhabiller, il faut les sécher, ils n'ont pas bouffé. On fait, nous, du sauvetage. On pourrait dire que c'est du super secours en montagne. Hein. C'est comme ça que les choses se présentent. Et d'ailleurs, l'une de nos motivations, c'est pas de se battre contre une politique d'immigration, etc., etc. C'est tout simplement de porter secours à des personnes en grand danger, surtout en ce début d'hiver. On les garde pas ici. Ils restent une nuit quand ils sont en très très mauvais état, un peu plus longtemps. Mais à Névache, on les a un tout petit peu quand même. Hein. On n'a pas les moyens ni la possibilité de les garder longtemps. Donc après, il faut qu'ils descendent. Et là, on a des problèmes qui tiennent au fait que, il faut le dire, il nous semble que les services de police et la gendarmerie ne respectent pas toujours la législation. Hein. Et je vais donner un exemple précis. On a plus de la moitié qui sont des jeunes, des enfants, déclarés mineurs plutôt. Bon, alors d'abord, les mineurs, là, ils ont tous les droits en matière de demande d'asile, puisque les textes prévoient que même un mineur ayant passé clandestinement la frontière, ou etc., peut demander asile en France.
Ouais, en l'occurrence, quiconque ayant passé clandestinement la frontière, peut demander l'asile en France. C'est comme la Légion étrangère.
Voilà. Hein. Donc, tant qu'un mineur est dans une voiture ici, hein, il est illégal de le prendre et de le reconduire en Italie, comme ça s'est fait souvent. Hein. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas un changement de politique, je le répète, on demande l'application de la loi. C'est tout ce qu'on demande. Et on demande spécialement aux forces de l'ordre. On ne devrait pas faire obstacle au transfert de ces gens-là. Parce que ces gens-là, qui c'est pour nous, pour la plupart des gens? La plupart, ils les prennent sur la route. Hein, ce sont des autostoppeurs qui cherchent à aller à Briançon. On n'a jamais demandé à un automobiliste de demander la carte d'identité d'un stoppeur. Et on lui a jamais interdit de prendre un stoppeur parce qu'il est noir. Hein?
C'est bon, on grimpe jusqu'à la cabane. Qu'est-ce que vous dites, Cédric?
Il y a du monde qui... Il y a des traces de pas qui ont la cabane.
Ouais. Et aujourd'hui, c'est la neige, elle vient de... Ouais. La neige, elle vient de tomber.
Une pointure.
Ça ressemble pas à des... À des chaussures de réfugiés.
Non, ça ne ressemble pas à des mauvaises Adidas.
Il en restera une couverture, c'est tout. Hein.
Non mais j'ai tout, j'en ai replié 15 moi au moins. Quand c'est vendredi soir, et dimanche, il n'y en avait plus une seule.
Ouais,
et toutes les pompes, regarde, il y a un Vislar qui a piqué les lacets. C'est quoi, toi? Ouais, voilà, tu as pris des trucs, ça avait tout été balancé derrière, là-bas.
Où est-ce qu'on se trouve?
Alors ici, on est donc au col de l'Échelle. On est dans une cabane de berger qui n'est pas utilisée l'hiver, donc puisqu'il n'y a pas de troupeau l'hiver. Et donc on l'a... Aménager, c'est un grand mot, mais on y laisse un petit peu du matériel, des couvertures, des chaussures, pour que ben, les migrants qui arrivent ici et qui ont froid puissent se tenir un peu, se réchauffer un peu. Voilà, donc là, on est, je sais combien, 7-8 novembre, et là, il neige, pas beaucoup, mais à partir de maintenant, les conditions vont devenir de plus en plus difficiles. On est vraiment là dans une notion de sécurité. On n'est pas dans une notion autre. On a des gens qui peuvent être en danger. Donc nous, on vient ici pour éviter d'avoir des morts, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Voilà.
Votre prénom, peut-être?
Alain. Alain. Accompagnateur en montagne, retraité.
Et vous êtes avec?
Cédric. Accompagnateur en montagne, pas encore à la retraite.
Alors vous tenez à une forme d'anonymat, peut-être? Parce que c'est pas très bien vu, ce que vous faites là.
Non, moi, l'anonymat, non. On fait ce que tout homme doit faire, c'est-à-dire aider son prochain. Voilà, c'est simple. Même la loi française nous l'oblige. Hein. Une personne en danger doit être secourue, doit être aidée. Le problème fondamental ici, c'est que les personnes qui arrivent d'Italie ne savent pas qu'elles vont être confrontées à un milieu très difficile, très froid. L'hiver passé, on a passé une nuit ici avec du moins 24 degrés. On peut avoir des chutes de neige qui dépassent les 50-60 cm de neige. Donc vraiment des conditions qui sont difficiles, ça peut vraiment devenir extrêmement dangereux.
Typiquement, ces personnes qui passent, comment sont-elles équipées ou comment ne sont-elles pas équipées?
Bon, ils arrivent avec aucun bagage, de toute façon. Ils ont un t-shirt de la Croix-Rouge italienne, un bonnet quand même en hiver, deux ou trois pantalons. Un pull, des fois ils ont une petite veste et des baskets, quoi. Voilà. Pas du tout prêt pour la neige. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude du froid, ils ont souvent même pas de sac à dos, donc ils ont rien à manger, ils ont rien à boire. Voilà, ils sont surtout pas équipés, quoi. Et ils y passent du temps ici parce qu'ils passent déjà l'été, ils y passent, ils se font refouler une première fois, une deuxième fois. Il y a des gens qui mettent 4 jours à passer. Pendant 4 jours, ils ont pas de quoi manger, ils ont pas, à moins que quelqu'un leur donne quelque chose, quoi. Et en hiver, voilà, quand il fait moins 10, que t'as un mètre de neige et que tu viens de marcher pendant 4 heures à faire la trace dans de la poudreuse, t'es trempé, t'es exténué, tu tiens pas longtemps, quoi.
Quand est-ce que vous avez commencé cette démarche?
En fait, c'est l'accident de Mamadou qui nous a... Donc Mamadou a eu les pieds gelés, il est toujours à l'hôpital donc depuis un an et demi, donc on imagine le coup que ça représente. Hein,
il vient de sortir.
Ouais, voilà, je ne savais pas, il vient de sortir.
Donc, il a été amputé, c'est ça?
Voilà, il a été amputé des doigts de pied, un peu au-dessus des doigts de pied. Donc, suite à cet accident, on s'est questionné, nous, justement, vis-à-vis de ce problème de sécurité. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce système de maraude que l'on a mis en place. Voilà. Mais vraiment dans un but de sécurité. On sait que, malheureusement, si les forces de l'ordre sont encore présentes comme ça, dès qu'il va commencer à neiger, on aura des morts. Ça, c'est inévitable. C'est clair. Hein. Cette présence policière va faire que les migrants vont vouloir passer la nuit. C'est le moment où c'est le plus dangereux, c'est le plus froid. Ils peuvent se perdre très facilement, sauter des barres rocheuses. On a eu un peu l'exemple cet été dans d'autres conditions.
Au mois de septembre.
Au mois d'août aussi. Au mois d'août, oui.
Deux se sont enfuis, coursés par la police et ont sauté d'une barre rocheuse dont un est tombé dans le coma.
Voilà, c'est ça. Donc, oui, ça, les forces de l'ordre constituent un danger parce que les migrants ont peur. Ils sont refoulés, donc ce que vient d'expliquer Cédric, ils sont ramenés une fois au bas du col, ils sont ramenés deux fois au bas du col, donc de la fatigue, de l'épuisement. Donc l'été, ça passe encore, mais là maintenant, ça va devenir catastrophique. Alors, c'est pour ça que cette présence policière qui les fait sortir de la route, qui les fait sortir des pistes qui sont tracées par les engins de damage des pistes de ski de fond l'hiver, oui, ça les met clairement en danger.
Au squat chez Marcel à Briançon. Alseni, citoyen guinéen, réfugié en France. Alseni, quand est-ce que vous êtes arrivé à Bardonec?
Le 1er novembre, je pense. C'était à 20h que nous sommes arrivés. On a pris la route pour traverser la frontière. Une chose qui n'a pas été tout facile pour nous, parce qu'on a fait 7 heures de route dans le vide. On s'est trompé de route. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la vallée étroite. Après, on s'est retourné. On a croisé une dame et il faisait trop froid. Donc, elle nous a accueillis dans la voiture. On nous a réchauffé un peu. On nous a donné des biscuits et des pulls. Du coup, nous sommes montés ensemble avec elle. Les gendarmes nous ont arrêtés. Ils nous ont retournés jusqu'à la frontière encore. Et quand la voiture des gendarmes s'est arrêtée, il s'est retourné encore pour rejoindre la France. En ce moment aussi, on a suivi la voiture. Et on a encore grimpé la montagne. Et jusqu'à la traversée des deux tunnels, arrivé à un certain niveau, on s'est rencontré avec les mêmes gendarmes. Ils nous ont dit de revenir. Et il nous disait, arrêtez-vous, venez, vous allez vous blesser, vous allez vous finir par faire du mal, revenez s'il vous plaît. On n'a pas écouté. On savait que si on allait revenir, ils allaient nous retourner encore. Donc du coup, on a monté les montagnes, on a grimpé, on a pris la fuite. On marchait et puis on a croisé d'autres personnes sur la route, on les a demandé la route de Briançon. Ils ont dit que c'est comme ça. Donc ça nous a beaucoup encouragés. Mais on avait peur de s'approcher au village parce que la police, à chaque fois, ils circulaient. Donc, c'est comme ça. On a marché. On a encore suivi la route. Nous sommes rentrés maintenant ici. Et par finir, on est venu jusqu'à côté du CRS. Alors, on ne connaissait pas. Il y avait une dame qui est venue. On l'a demandé, est-ce que vous connaissez un endroit où on peut voir les immigrants? CRS, elle dit oui. Nous a dirigé jusqu'à dans la cour et ils sont rentrés. Ils sont bien accueillis. Ils ont donné à manger. Ils ont montré les toilettes, on se lavait. Ils ont dit de nous reposer. Se reposer parce que moi j'avais mal aux pieds. Ce qui était en Italie, j'avais mal aux pieds. Et ça me faisait très mal parce qu'il faisait trop froid. Et surtout, il y a de ces parties au cours de la route, il faut traverser l'eau. Et quand j'ai mis mon pied dans l'eau, je ne pouvais plus sentir mon pied.
Vous vous attendiez à ça? Vous étiez préparé? Vous connaissiez la montagne?
Non, on ne connaissait rien, on ne connaissait pas la montagne. On savait seulement que oui, par là, il y avait une frontière, il y avait une route qui pouvait mener en France. C'est pourquoi, pour la première fois, on s'est perdu, parce qu'on a suivi directement la route. Et arrivé au carrefour, au petit carrefour qui sépare les deux routes. On se disait, est-ce que c'est par là, est-ce que c'est par là?
Ouais, parce que y a le panneau France a été enlevé, en l'occurrence.
Ok. Et c'était encore la nuit, donc on ne pouvait pas comprendre. On a appelé les amis et il n'y avait pas de réseau.
Quand vous dites vous avez appelé les amis, c'est-à-dire vos amis qui étaient déjà passés en France?
Il y a des amis qui sont déjà passés et qui nous ont dit que c'est par là qu'ils sont passés. Donc c'est comme ça que nous aussi, on va prendre la route aussi.
C'est du bouche à oreille en fait?
Eh oui, du bouche à l'oreille.
Et aujourd'hui, quand vos amis vous disent on veut passer, qu'est-ce que vous leur dites?
C'est trop risqué. C'est trop risqué, c'est un combat, comme le commencement. Traverser le Sahara et traverser la mer Méditerranée, traverser cette montagne, c'est pas tout facile. Et surtout, actuellement, il neige. Et donc, tu as beaucoup plus de chance de mourir que d'être sauvé. C'est pas tout facile.
Bonjour, Philippe Cour, préfet des Hautes-Alpes. En 2017, compte tenu d'un certain nombre d'événements, la pression migratoire qu'on a constatée dans ce département a augmenté. Elle a augmenté depuis la fin du printemps, le début de l'été, avec une spécificité que l'on ne retrouve pas ailleurs. C'est que la quasi-totalité des personnes qui franchissent ou qui tentent de franchir la frontière sont des hommes. La grande majorité sont originaires de pays d'Afrique de l'Ouest, francophones, et notamment de Guinée-Conakry. Et en leur sein également, à peu près la moitié des personnes revendiquent leur minorité. Je dis revendique puisque notre pays, et puisque nous sommes chargés notamment d'appliquer nos règles nationales, communautaires, internationales. En tout cas, nos principes font que quand quelqu'un se revendique, se déclare mineur, il est considéré comme tel jusqu'au moment où il est démontré qu'il n'est pas mineur ou bien qu'il l'est. Et dans ce cas-là, la réponse qui est apportée par la puissance publique va prendre deux voies de nature différente.
Quels événements expliquent le fait qu'aujourd'hui les gens passent ici?
On ne sait pas, on n'est pas capable, en tout cas je ne suis pas capable d'expliciter les phénomènes déclencheurs. Le seul constat que l'on peut faire, c'est que ce flux migratoire est très caractéristique, il n'est en rien comparable en ce que l'on peut constater ailleurs, et que par conséquent, on peut peut-être effectivement s'interroger pourquoi il y a une telle concentration de ressortissants guinéens, pourquoi il y a une telle homogénéité dans leur profil, qui arrive par une voie qui est une voie en montagne, qui n'est pas naturellement une voie facile. Et pourquoi également, entre 2016 et 2017, le nombre de passeurs que nous avons interpellés a fortement augmenté. Ils étaient 3 en 2016. Nous avons interpellé, nous sommes au mois de novembre, 28 passeurs en 2017.
Vous incluez les citoyens de la vallée de la Clarée qui prennent des gens en autostop pour les ramener à Briançon par grand vent et parfois par des températures négatives chez ces passeurs?
Un passeur, c'est quelqu'un qui fait franchir de manière irrégulière la frontière à un ressortissant étranger qui n'a pas le droit de le faire. Les éléments de motivation, chacun a les siens. Ce qui est certain, c'est que la légitimité des principes, l'importance des valeurs que nous avons, nous mettons en œuvre, ils reposent sur deux piliers essentiels. Le premier, c'est le respect du droit, de nos conventions, de nos lois qui ont un sens véritable. La politique migratoire que met en œuvre la France, elle repose sur deux volets. Une partie, c'est accueillir ceux qui sont persécutés dans leur pays, qui souffrent, qui relèvent de la Convention de Genève. La seconde, c'est d'appliquer de manière juste, parfois ferme, et toujours respectueuse en tout cas des personnes, nos principes et nos lois. Et nos lois, elles disent très explicitement, et quand je dis nos lois, c'est nos lois européennes également, que une personne, peu importe où elle habite, qu'elle habite dans la vallée de la Clarée, qu'elle habite ailleurs en France, quelle importe ses motivations, quand elle fait franchir la frontière à un ressortissant étranger de manière irrégulière, eh bien, tout simplement, elle participe à une infraction. Voilà. Donc dans ce département, les retours se font toujours dans le respect à la fois de notre droit national et de notre droit international. C'est un sujet sur lequel les garanties des personnes sont très fortes. C'est un sujet évidemment qui regarde avec énormément de vigilance de la part de beaucoup d'acteurs. Et si d'aventure nous nous écartions, ce qui n'est absolument pas notre intention, parce que nous avons une éthique dans notre action, nous écartions du droit, je pense qu'on se rappellera à nous de manière assez rapide.
avec Alain, accompagnateur en montagne à la retraite, et Caroline, consoeur du journal suisse Le Temps, pour apprécier la situation de nuit au col de l'échelle. On entend une branche craquer. C'était là, je crois.
Ça peut être un chevreuil aussi.
Si, là. Attends. Oh. Là. Là, là. Non, non, t'en fais pas.
Je ne craignez rien.
Il y a qu'un ado qui sont avec vous derrière.
Voilà. Quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 16 ans. Parce que c'est le 10 octobre passé, j'ai fêté mon anniversaire 16 ans.
D'accord. Et vous venez d'où?
Je viens de Guinée-Conakry, moi.
Vous êtes parti il y a combien de temps?
Au moment de 2015, je suis sorti avec mon oncle.
En 2015?
Oui, depuis le mois d'avril 2015.
Donc à l'âge de 14 ans, quoi?
Oui, oui.
Enfin, même pas, 13 ans et demi.
J'étais conduit par quelqu'un, quoi. On est venu ensemble là, mais lui, je l'ai laissé à Libye.
Et vos camarades, ils ont quel âge? Vous avez quel âge? Moi, je suis journaliste. Hein.
Ok, moi, j'ai 16 ans, comme ça, 16 ans.
Vous êtes de Guinée également?
Oui, oui, Guinée-Conakry.
Et vous?
Moi, j'ai 16 ans, c'est sénégalais.
Oui, je suis guinéen.
D'accord. Quel âge avez-vous?
J'ai 17 ans.
D'accord.
Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Hein. Moi, je fais partie d'une association qui s'occupe de vous. Quand vous arrivez en France, à Briançon, on est une association et on vous accueille, on vous aide. Oui. D'accord? Hein? Ça va? Pas trop fatigué? Vous avez faim? Vous avez soif?
Donc ce que vous faites, Alain, c'est que vous avez des vivres, quoi.
Des vivres, des vêtements chauds, des gants, des chaussettes, une pharmacie, parce qu'on ne sait jamais. Du thé chaud, si vous voulez.
Moi, j'ai encore des gants ici.
Tu veux des gants?
Oui, oui.
Ouais.
Les doigts, là, sont trop concentrés. Glacés, même, quoi.
Vos doigts sont glacés,
oui. Oui. C'est glacé, même.
Tu veux du thé chaud?
Oui, tu bosses bien, ça.
Attention, c'est très chaud, hein. On va peut-être mettre un peu d'eau froide dedans, parce que sinon, ça risque de se brûler. Tu as trouvé un petit biscuit? Allez, va-t'en. Tiens, tu en veux, tu prends là-dedans. Tu en veux deux ou encore un?
Non, non, c'est bon.
Vous venez par ici, les garçons. Oh, venez là, venez là. Voilà, vous vous mettez là.
Qu'est-ce qui se passe maintenant?
On attend une voiture, parce que je ne peux pas prendre tout le monde dans mon véhicule. Donc j'ai appelé quelqu'un sur Briançon qui ne va pas tarder à arriver. Et donc qui prendra les jeunes et qui les amènera à Briançon. Donc voilà, tu es là qui arrive.
C'est votre ami.
Ils arrivent. C'est super, ça a été vite. Salut Jean-Paul.
Ça va?
Ça va bien?
Bonjour.
Bonjour.
Raphaël.
Bonjour Raphaël.
Allez, venez vite, on va pas trop tarder.
C'est des bons petits, ils ont mis leur ceinture.
Souvent des contrôles au niveau de l'église de Val-des-Prés. Donc on va voir. Voilà, tiens, ils sont là. On va voir.
Ouais.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, je vais demander de vous stationner sur la droite. On va procéder à un contrôle s'il vous plaît.
Oui.
Bonsoir.
Est-ce
qu'on pourra... Vous pouvez couper contact, s'il vous plaît?
Oui.
Est-ce qu'on pourra avoir les papiers du véhicule, s'il vous plaît, et votre permis de conduire?
Voilà, madame.
Merci.
Je vous en prie.
Est-ce que je pourrais avoir une pièce d'identité pour... Il y a d'autres personnes?
Oui.
Une pièce d'identité aussi pour
non,
les occupants?
Ils n'ont pas de pièce d'identité.
Ils n'ont pas de pièce d'identité. Ok, très bien.
Qu'est-ce qui se passe?
Ben là, ils vont sur l'ordinateur voir que la voiture est bien à ma femme.
Merci.
Oui. Ton identité.
Le magazine de la rédaction, rédaction de France Culture.
Non, mais monsieur, en fait, il en a une.
Ah, bon, donc... sport crédit, on avait deux ici.
Et il y a quelqu'un derrière?
Oui, il y a deux mineurs derrière.
Ah, d'accord, ok.
Deux mineurs déclarés.
Ok.
Comment vous savez qu'ils sont mineurs?
Ben, ils nous l'ont dit.
D'accord. Mais ils viennent d'où, ces mineurs?
Ben, en fait, on les a trouvés au bord de la route, un petit peu plus haut, donc on les a récupérés. Ils étaient en train de marcher au bord de la route, on leur demandait ce qu'ils faisaient là, ouais. Comme ils sont mineurs, donc on les amène à l'association ad hoc à Briançon.
Et pourquoi vous les amenez à l'association? Ils vous ont dit quoi?
Ben, ils nous ont demandé qu'ils voulaient aller sur Briançon, donc on les amène à Briançon.
D'accord.
France Culture, hein, vous m'avez dit, c'est
oui,
ça?
Oui.
Okay. Tenez, merci. Vous attendez deux petites minutes?
Oui, je vous en prie.
C'est bien qu'il appelle ça. C'est bien qu'il y ait des journalistes qui voient comment ça se passe dans le Briançonnais. Hein. La réalité, c'est ça, dans le quotidien. Donc, c'est des enfants donc, qui relèvent du conseil départemental, donc qui doivent être pris en protection par le conseil départemental, et c'est du déclaratif. Et quand on ne sait pas, bon, on doit les amener, puis ensuite, c'est le conseil départemental qui détermine ou pas leur minorité.
D'accord.
Et moi je ne suis pas apte à le déterminer.
Que se serait-il passé en notre absence?
Je ne sais pas. Peut-être la même chose, peut-être qu'ils les auraient récupérés. C'est arrivé déjà l'année dernière. On a des mineurs qui sont arrivés, là, qui avaient été recueillis par les gens du ski de fond de Névache. Et ces mineurs ont été reconduits directement en Italie. Le maire s'en
ce
est...
Qui va se passer, c'est s'en que est, les personnes qui ont les papiers, qui étaient dans les voitures, vont nous suivre jusqu'à Briançon. On va vous prendre une audition. Et ce, dans le cadre de soit une entrée... soit une aide au séjour, soit une aide à la circulation à personnes en situation irrégulière.
Elles sont pas en situation
concernant
régulière.
Les personnes, elles n'ont pas de pièce d'identité?
Oui, non, mais elles sont mineures.
Est-ce qu'elles ont une pièce d'identité, monsieur?
Non, elles n'ont pas de pièce d'identité.
Donc, elles sont en situation irrégulière?
Non, monsieur, parce que lorsqu'ils sont mineurs, c'est du déclaratif.
Hein. Donc, ça, on va le prendre à la brigade, monsieur. C'est
pour ça qu'on alors ça, brigade, justement, on va vous entendre. Concernant les mineurs, ils vont être pris en charge par mes collègues. Vous, vous allez nous suivre à Briançon.
Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les mineurs?
Je sais pas, on m'a dit de m'occuper de vous, monsieur.
Et moi, je veux savoir ce que deviennent les mineurs.
On va s'en occuper.
Mais monsieur, ce n'est plus de votre ressort, là.
D'accord. Donc,
d'accord.
Les mineurs,
je vous le dis, pour le conseil départemental. Il est susceptible d'être relevé à votre rencontre une aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour de personnes en situation irrégulière, ce qui est un délit pénal. D'accord. On vous invite à nous suivre librement dans les locaux de la brigade de Briançon afin d'être entendu sur les faits concernant les quatre personnes qui se trouvaient dans les deux véhicules qui ont donc aidé des personnes en situation irrégulière à circuler sur le territoire national. Les personnes qui sont en situation irrégulière vont rester avec mes collègues qui vont faire les constatations, d'accord, d'usage, et qui feront ce qui s'impose, d'accord?
C'est quoi ce qui s'impose? Vous pouvez me le dire?
Je ne sais pas, je m'en occupe pas.
D'accord.
Moi, je m'occupe des personnes qui font l'aide à l'entrée ou au séjour en situation régulière.
D'accord, mais ce sont des personnes irrégulières lorsqu'ils ne sont pas mineurs. Parce que lorsqu'ils sont mineurs, il y a deux choses qui s'appliquent. C'est d'abord leur minorité et qu'ensuite le fait qu'ils soient étrangers. C'est deux choses et il y a leur droit par rapport à ça. Ce sont donc des enfants qui sont en danger quand ils sont à la nuit dehors.
Ce soir, je vais ne pas faire un débat de pénaliste avec vous.
Non, non, bien sûr.
D'accord, j'applique le code de procédure pénale.
Bien sûr. Mais
d'accord, vous êtes conscient qu'il est susceptible d'être relevé à votre compte un délit pénal. Vous êtes conscient ou pas?
Je suis conscient surtout qu'on...
Vous acceptez d'être entendu librement sur les faits?
Mais attendez, je suis conscient, vous me posez deux questions, donc je vais vous répondre.
Ben, répondez.
La première réponse que je vous fais, c'est que je suis conscient qu'effectivement, je suis allé chercher des enfants qui se déclarent mineurs et dont je n'ai pas la possibilité de savoir s'ils sont
vous
mineurs.
Vous êtes allé chercher, vous aviez rendez-vous avec eux?
Pas du tout, pas du tout.
Je les
ai pris en route parce que, si vous voulez, quand je trouve des enfants moi, sur
non,
la route qui sont
pas,
mineurs...
C'est votre terme, je suis allé chercher.
Je vous explique que quand je trouve des enfants mineurs
sur la route... Non, mais si vous avez un contact
route,
avec eux, il faut me le dire.
Je n'ai pas de contact. Alors,
d'accord. Bon, on éclaircira tout à la brigade,
pas de soucis,
par audition.
D'accord, monsieur. Soucis.
Voilà, je vous explique comment ça a fonctionné. Comme ça,
ça
vous pouvez vous organiser...
Monsieur, vous descendez, s'il vous plaît.
Bon, désolé, vous allez partir avec les gendarmes.
C'est quoi ton numéro de téléphone? Numéro de téléphone, vite.
C'est 35 12.
Si jamais vous êtes renvoyé en Italie, vous m'attendez demain matin à la gare de Bardonecchia. À la gare demain, ok?
Ok.
Demain matin, vous m'attendez à la gare si vous êtes renvoyé, ok?
Je pense pas qu'il te remette en Italie.
Je pense pas. Moi, j'ai déjà donné ça. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on prenne.
Oui, non, non, faut qu'on prenne tout à fait, ça c'est sûr.
Leurs coordonnées. Lorsqu'on en récupère, on va les déclarer jusqu'à la police parce que c'est ce qu'a exigé le conseil départemental. Donc à chaque fois qu'on récupère des mineurs, on les mène au CRS pour qu'ils se reposent et on va les déclarer. C'est-à-dire qu'ils sont tous déclarés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça du tout dans l'illégalité.
C'est bon, tu as les quatre ?
J'en ai trois. Il est où ?
Quatrième ?
Comment ? C'est quoi ton numéro ?
Gare de Bardonecchia, en Italie. Le lendemain, sur le quai de la gare de Bardonecchia, nous retrouvons Rosé, Tierno, Mamadou, Lansana, Diallo. Lansana, Diallo, qu'est-ce qui s'est passé quand la police a arrêté les deux voitures?
Quand la police nous a arrêtés hier nuit, ils nous ont demandé où on s'est croisé avec les deux messieurs qui ont voulu nous sauver. Non, on a expliqué. Le monsieur nous a trouvé sur la route et puis on a voulu s'échapper, mais bon, ils nous ont signalé de venir et puis ils nous ont fait monter dans les voitures. On est venu. Après ça, bon, ils nous ont demandé la date de naissance. On a donné la date de naissance.
C'est quoi votre date de naissance, vous?
Moi, ma date de naissance, c'est le 10 octobre 2001. Okay. Je leur ai donné ça, ils m'ont demandé le nom de ma maman et mon père aussi. J'ai donné ça, la nationalité et quelle ville je suis né. J'ai donné ça et puis ils m'ont demandé sur quelle voie j'ai emprunté pour venir en Italie. J'ai dit encore que c'est vers Libye, j'ai traversé. Après, ils m'ont demandé les papiers, si j'ai une adresse. J'ai dit non, je n'ai pas de papiers, je n'ai pas d'adresse aussi.
Alors, quand la police vous a arrêté, donc elle vous a posé des questions, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Après ça, j'ai appelé secours et j'ai venu avec un minibus là. Mm-hmm. Ouais, j'ai venu, c'est dans le minibus là, et j'ai envoyé à la frontière d'Italie.
Alors, est-ce qu'ils vous ont laissé à la gare de Bardonecchia ou est-ce qu'ils vous ont laissé dans la montagne?
Non, ils nous ont laissé dans la montagne. Et puis, avec fraîcheur de 2 degrés encore, ils nous ont laissé dans la montagne. Ils nous ont montré la route. Ils ont dit oui, voici la direction de l'Italie. Et puis, ils ont garé leur voiture là-bas encore. Ils ont tiré là-bas, mais pour ne pas qu'on se retourne encore, pour retenter.
Quelle heure était-il lorsqu'ils vous ont reconduit?
C'est à 1h, ils nous ont reconduit.
1h du matin?
Oui, 1h du matin. C'est le matin à 7h, comme ça, on est venu à la gare ici.
De Bardonecchia?
Oui, oui.
Est-ce qu'ils vous ont donné à manger?
Non, ils ne nous ont rien donné.
Est-ce qu'ils vous ont donné de l'eau?
Non, ils ne nous ont rien donné. Ils ne nous ont même pas demandé si on a faim ou bien on a soif. Et leur objectif, c'était de nous reconduire à la frontière.
Qui est-ce qui souhaite répondre à mes questions encore? Rosé, vous voulez parler?
Je m'appelle Rosé, j'ai 17 ans, je suis né en 2000. Le 3 février.
Vous venez de quel pays?
Je suis de la Guinée. D'accord. La Guinée-Conakry.
Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la police vous a arrêté hier soir?
La police nous a demandé où vous allez. On l'a demandé, on veut aller en France. Il dit si, vous avez l'adresse de quelqu'un en France. On dit non, on n'a pas l'adresse de quelqu'un en France. Donc on nous a demandé si on est des mineurs ou on quoi. On dit on est des mineurs. Après, ils sont pris notre as. Après, on les a mis dans leur voiture.
Ils vous ont laissé un document? Hein? Ils vous ont laissé un papier?
Non, on ne nous a pas donné un papier.
La police ne vous a pas donné un refus d'entrée sur le territoire?
Non, il ne nous a pas donné un papier.
Lansana, est-ce que la police vous a donné un papier à vous?
Non, ils ne nous ont rien donné.
Vous n'avez pas eu un papier refus d'entrée sur le territoire français?
Oh, Bon, ils nous ont fait signer un papier, mais ils nous ont pas donné le copie.
D'accord. Vous savez lire, vous, Lassana?
Oui, bon, je sais lire un peu.
Ils ne vous ont pas donné de papier.
De lire, quoi.
Okay.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Trois minuteurs sont venus nous déposer sur la montagne. On nous a dit, voici la direction de l'Italie. Maintenant, on a pris la route. 1h du matin, on est revenu maintenant vers l'Italie. Après, on est arrivé dans cette gare-ci.
Okay. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
Parce que là où nous, on est en Italie, on n'a pas de campo. On va aller dormir sur la rue. Il y a beaucoup d'amis qui dorment sur la rue en Italie. Si vous voyez, nous, on tente pour venir à la France, c'est à cause de ça.
Comment vous avez appris l'existence de cette route-là pour aller en France?
Donc, nous, on a des téléphones, on se connecte, on voit dans les nets, donc c'est à cause de ça, on a pris sur la route.
Okay. Vous êtes passé par la Libye aussi?
Oui, on est passé vers la Libye.
Vous avez été en prison?
Oui, j'ai fait prison à la Libye.
Combien de temps?
J'avais prison deux fois. Le premier prison, j'ai fait un mois. Le deuxième, j'ai fait trois mois. On nous a torturé même. Il y a les plaies. Tu vois, ça, c'est une trace de prison. Mm-hmm. Ça a été m'arrivé à Libye.
Comment vous l'avez eu, cette grosse plaie?
On nous a mis en prison pour nous dire que appelez vos parents d'envoyer l'argent. Mm-hmm. Maintenant, à chaque matin, on vous frappe. On vous donne téléphone. Tu pleures dans le téléphone pour que tes parents puissent comprendre que tu es en prison. Et puis tu pleures pour que tes parents comprennent que oui, mon enfant il est au prison pour que tes parents puissent avoir l'argent pour qu'on puisse te libérer. C'est comme ça. On a trop vu à Libye, on ne peut pas tout expliquer. C'est trop.
C'est trop dur.
C'est trop dur.
Quand des mineurs africains sont abandonnés dans la montagne, un reportage de Raphaël Kraft. Nous sommes avec François Sureau, écrivain et avocat. Bonjour.
Bonjour.
François Sureau, lundi, ce sera la journée internationale des droits des enfants. Que vous inspire le sort de ces jeunes migrants, a priori mineurs?
Ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, je trouve que ce reportage, je ne vais pas dire du bien de Raphaël Kraft parce qu'il est là, mais... Je trouve que ce reportage est extrêmement impressionnant parce qu'il montre quelque chose qu'on oublie. Si vous voulez, globalement, en France, on a un débat où, pour les uns, les étrangers, il faut les accueillir, pour les autres, il faut les laisser dehors, et on ne voit jamais à quoi ça ressemble. Et je trouvais que là, avec ces mineurs et cette montagne et ce reportage, on voyait à quoi ça ressemblait d'une manière extrêmement poignante. Et je trouve qu'on voit plusieurs choses. On voit d'abord le choc de deux milieux. Il y a le milieu de la montagne. Le milieu de la montagne, c'est celui, et je dis ça parce que j'ai passé une partie de mon enfance au-dessus de Bourdoisan, le milieu de la montagne est un milieu où la loi des hommes n'existe pas vraiment au sens du code. Il y a la loi du courage, il y a la loi du danger physique, il y a la loi de la dureté des conditions, des dieux mystérieux qui vivent sur la montagne et qui peuvent provoquer le malheur et la mort. C'est un monde complètement différent. C'est l'arrière-monde de la politique. Il y a un très très beau texte de Harrison, l'écrivain américain, le professeur de littérature, qui publie ces jours-ci un texte magnifique sur la forêt, où il montre que la forêt, c'est l'arrière-monde de la politique. Il y a le monde des codes et le monde de la forêt. Et sans monde de la forêt, il n'y a pas non plus de monde politique. La montagne, c'est exactement pareil. C'est un monde dans lequel tout ça n'a pas véritablement lieu. Et ce qui m'a frappé d'abord dans ce reportage, et c'est un arrière-plan à la question que vous posez sur la question des mineurs, c'est de voir que d'un côté, vous avez des gens assez simples qui vous parlent de la dureté de la traversée de la montagne quand on est jeune et quand on vient de pays qui ne vous ont pas habitué à la montagne, du froid, du risque de mort, des mineurs, des enfants dont il faut s'occuper, de la non-assistance à personne en danger, et même du fait d'aider son prochain. Et puis vous avez de l'autre le langage du préfet, le flux migratoire, la pression, l'abstractisation, la réification de tout, et le langage du gendarme, qui est le langage du code de procédure pénale. Et le choc entre ces deux mondes produit un effet qui en dit long sur notre civilisation. Peut-être faut-il qu'il y ait plus de droit dans la montagne, mais peut-être aussi qu'il faut plus d'humanité dans le droit. Et dans tout le reportage que nous venons d'entendre, c'est ça qui m'a frappé le plus. En dehors du fait que, par ailleurs, je tiens pour une imposture avérée tout ce qui est dit sur le respect du droit dans cette zone frontalière. Et si
alors
vous voulez, j'aurai l'occasion de vous en parler.
Voilà, justement, cette question du droit, là, quand les gendarmes raccompagnent ces jeunes de l'autre côté de la frontière dans la montagne, est-ce qu'ils sont dans leur droit?
Certainement pas. D'ailleurs, je trouve qu'il y a là-dedans une imposture. Alors, D'une certaine manière, si vous voulez, les gendarmes, c'est des exécutants. Moi, j'aurais du mal à dire du mal des gendarmes. On voit très bien la pression à laquelle ils sont soumis. Si vous voulez, ça fait des années que le ministère de l'Intérieur développe une philosophie selon laquelle plus on rend l'entrée difficile et pénible, plus les gens seront dissuadés de venir.
Hein. Certes, mais il y a des procédures à respecter, normalement.
Ah, bien sûr. Mais si vous voulez, bon, le gendarme, il respecte les procédures, il reçoit un ordre, on lui dit le code de procédure pénale vous dit d'arrêter les gens qui aident à l'entrée irrégulière, il le fait. Vous savez, j'ai été une fois témoin, je suis allé visiter un centre de rétention qui était à l'époque gardé par des gendarmes, je vous dirai pas lequel, et puis à la fin, comme j'ai eu une conversation de camarade avec les gendarmes, parce que comme Raphaël Kraft, j'ai servi dans la Légion étrangère quand j'étais jeune, et le sous-préfet était parti, il restait plus que les gendarmes, et à la fin les gendarmes m'ont dit, vous savez, en fait, on a honte d'être là, on n'a pas signé pour ça. On n'a pas signé pour arrêter les va-nu-pieds, on n'a pas signé pour les garder derrière les miradors, on a honte d'être là. Et d'ailleurs, à l'époque, le taux de suicide, de divorce, etc., était extrêmement important parce qu'ils étaient en contrariété avec leur... Alors,
mais
le
là, justement, principal... parce que là, vous êtes avocat, oui. Quand les gendarmes font cette reconduction à la frontière sans examiner plus...
Si vous voulez, vous avez raison, il faut prendre le problème de plus haut. Et l'origine de l'imposture, on la voit fonctionner dans le discours préfectoral. Il dit, au fond, il y a un droit... S'ils franchissent la frontière en fraude, ils sont en situation irrégulière, on les reconduit dehors. Ça n'est pas le droit. Le droit, c'est que toute personne qui demande l'asile a droit de voir sa demande examinée sur le territoire de la République, a fortiori lorsqu'il est mineur. Tous les gens qui demandent l'asile sont en situation, par hypothèse, irrégulière, puisque la France n'autorise pas les visas asilaires, ne permet à personne de rentrer pour demander l'asile de manière régulière, et qu'au surplus, quand vous avez été persécuté dans le pays d'origine, la première chose que vous faites au moment de vous en aller ne consiste pas à vous précipiter à la police pour demander un passeport en bonne et due forme. Tout le monde sait, depuis la création de la Convention de Genève, depuis l'époque du passeport Nansen, depuis les républicains espagnols, depuis les arméniens, depuis les juifs, depuis l'entre-deux-guerres, tout le monde sait que quelqu'un qui arrive pour demander l'asile est nécessairement en situation irrégulière. Si on excite de cette situation irrégulière pour lui interdire de demander l'asile en le reconduisant à la frontière, on viole à la fois la Constitution et la Convention de Genève. C'est une chose que rappelle la quasi-totalité des juridictions françaises depuis près d'une dizaine d'années. Il a fallu, au moment même du règlement Dublin II, qui est une procédure particulière, que la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme intervienne pour interdire à la France de renvoyer des gens jusqu'en Grèce, parce que la Grèce ne traitait pas sérieusement les demandes d'asile. La France ne traite pas davantage sérieusement les demandes d'asile lorsqu'elle reconduit des gens, y compris des mineurs, en pleine nuit, dans la montagne, en leur disant « marche devant toi, là-bas, c'est l'Italie ».
Donc il aurait fallu que ces jeunes disent « je suis demandeur d'asile » et là, les gendarmes auraient peut-être eu une autre
attitude. Ne sais pas, parce que j'ai connu des centaines de cas depuis que je m'occupe de ces affaires, si vous voulez, où les gens disent « je suis demandeur d'asile » et ça ne change rien. On ne les écoute pas, on dit « j'ai pas compris ce que t'as dit mon coco », demi-tour droite, direction la frontière. Donc, si vous voulez, non, il n'aurait pas suffi que... Cette question va très au-delà de la question de la frontière italienne. Prenez par exemple les morts en Méditerranée. Les morts en Méditerranée sont un scandale dont nous sommes co-responsables. Et honnêtement, en disant ça, je ne suis pas un humaniste bêlant. Je veux dire par là que je pense, contrairement à beaucoup de gens, qu'un État a parfaitement le droit de décider qui il veut accueillir sur son territoire, réserve faite de l'application de la Convention de Genève. Vous savez, parmi les gens qui défendent les migrants, comme on dit, il y a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, immigrationnistes, c'est-à-dire qui pensent que tout le monde a le droit de se déplacer partout en permanence sur la totalité de la surface du globe. Tel n'est pas mon cas. Réserve faite de l'asile, je pense que l'État a parfaitement le droit de dire qui il veut sur son territoire. Mais en ce qui concerne l'asile, il doit permettre aux gens, parce que sa constitution et les conventions internationales l'y obligent, il doit permettre aux gens de venir déposer une demande d'asile en France, ou à la limite de la faire examiner dans les consulats limitrophes des zones de conflit. Tant qu'il ne fait pas ça, des gens vraiment persécutés, je parle pas de ceux qu'on appelle les migrants économiques, des gens réellement persécutés sont obligés de se taper l'atrocité de la traversée du désert, de la Libye, la traversée de la mer et la mort. Eh bien, nous en sommes co-responsables, par violation de nos obligations constitutionnelles et internationales. Et c'est insupportable.
Donc là, dans ce cas précis, manifestement, la situation des jeunes n'a pas été évaluée. Ça pose problème. Et au moment de la reconduction à la frontière, moi, qui ne suis pas spécialiste de ces questions, je m'attendais à ce que les gendarmes reconduisent ces jeunes soit à un commissariat de l'autre côté, soit dans une institution quelle qu'elle soit. J'ai été assez surprise d'entendre effectivement que c'était dans la montagne.
Tout ça est placé sous le régime du bricolage. C'est assez amusant parce que d'un côté, il y a le discours préfectoral, nous respectons le droit, les codes, l'humanité, la justice. justice. Et puis de l'autre côté, sur le terrain, il y a une espèce de patouillage administratif extrêmement français avec un bricolage permanent.
Permanent, vous dites, c'est-à-dire que ça, c'est une situation très courante, banale.
Oui, c'est une situation courante où les forces de police bricolent parce qu'elles sont soumises à des objectifs qu'elles ne peuvent pas tenir. Je suis pas absolument sûr qu'elles soient toujours très contentes du rôle qu'on leur fait jouer, d'ailleurs, et où rien n'est organisé de manière sérieuse. Si vous voulez, alors vous me direz qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche bien. Bon. C'est difficile, mais on peut imaginer par exemple déjà que pour les gens qui viennent de zones de conflit, en tout cas, on puisse faire un pré-examen des demandes d'asile dans les consulats. En général, les diplomates n'en veulent pas parce que ça va perturber leur train de vie. Mais il faudrait quand même le faire parce que après, si vous voulez, la personne qui s'est vue après un examen véritable de sa demande refuser le visa asilaire pour rentrer, bah, si elle prend la mer pour aller quand même vers Marseille, on peut se dire que c'est assez risque et péril. Ça ne diminue pas le drame humain, mais en tout cas, ça fait que nous, au moins, on aura la conscience nette, on aura examiné sa demande. Et quant aux gens qui franchissent les frontières terrestres, eh bien, je préférerais, je l'avoue, je le dis avec une certaine tristesse, mais plutôt que ce bricolage permanent, je préférerais l'hébergement en centre fermé à l'anglaise, avec une interdiction de sortie, un examen des demandes, et ensuite une reconduite organisée pour ceux dont la demande n'aurait pas été satisfaite. C'est-à-dire, il faut créer des points d'entrée fixes sur le territoire, avec un examen véritable des demandes. L'un des problèmes de cette affaire, fondamentalement, c'est que la gestion de ce que le préfet appelle les flux asilaires est en fait une gestion qui est confiée depuis une dizaine d'années au ministère de l'Intérieur, dont le travail est de faire de la police des étrangers. On le voit bien dans ce que dit le gendarme, l'aide au séjour irrégulier. Mais l'asile pose une problématique de nature différente. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, il faut une autorité indépendante de l'asile avec une administration asilaire chargée d'examiner les demandes des gens qui présentent des demandes d'asile sur le territoire français.
Et là, face au dysfonctionnement qu'on a pu constater, est-ce qu'il y aurait des recours envisageables? Ou est-ce que c'est peine perdue?
Si, il y a certainement des recours. On peut faire des référés, on peut faire des tas de choses. J'en ai fait moi-même beaucoup, beaucoup d'avocats en ont fait. Vous avez des cas, en effet, où vous pouvez plaider. Vous pouvez même plaider pour demander des indemnités. Mais si vous voulez, je pense que ça va vous paraître paradoxal, mais je pense qu'il faut cesser de faire du droit. Je pense que le droit ici est une espèce de cautère sur la jambe de bois de l'inefficacité administrative. Et c'est un système qui est à la fois injuste et inefficace. Il est également injuste et inefficace parce qu'il ne permet pas de trier, entre guillemets, les vrais demandeurs des faux demandeurs. Là, dans la nuit noire, vous allez reconduire aussi bien quelqu'un qui n'a pas été persécuté et qui n'a pas vocation à la Convention de Genève, que quelqu'un qui a été abominablement torturé après un engagement politique de 10 ans. Comment voulez-vous le savoir? Vous allez reconduire les deux dans une ambiance d'indistinction, dans une espèce de brouillard administratif qui est, lui, complètement incompatible avec le respect de nos obligations. Ce que demande le système de l'asile, c'est une refonte administrative extrêmement profonde, et je dois dire à mon grand regret que rien dans les projets du gouvernement à l'heure actuelle ne laisse l'espérer.
Raphaël Kraft, ces jeunes que vous avez rencontrés, ils sont donc maintenant en Italie. Est-ce qu'ils vont retenter leur chance? Est-ce que vous savez un petit peu quelle est leur situation?
Oui, je leur ai passé un coup de fil aujourd'hui, et ces jours derniers. J'étais inquiet parce que le dimanche 12 novembre, il neigeait à l'horizontale à Névache, et donc on s'inquiétait qu'ils veuillent tenter de passer une nouvelle fois. Ils sont à Turin en ce moment, et ben, ils dorment dans la rue. C'est un petit peu le problème de beaucoup de ces mineurs italiens. On en a recensé plus de 25 000 en 2016. Dont 6 000 ont disparu des radars, donc ce qui est inquiétant. Et arrive ce phénomène, effectivement, comme le laissait entendre le préfet des Hautes-Alpes, de mineurs qui originaires d'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau. François Sureau aura des choses à dire. Mais une étude parue cet été laisse entendre, déjà, casse les images qu'on a sur cette immigration, c'est-à-dire que plus de la moitié d'entre eux n'ont pas l'Europe pour objectif au début de leur voyage, et ce sont souvent des voyages extrêmement longs, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui quittent un environnement familial qui ne leur est pas favorable, violence, beaucoup, pour la Guinée-Conakry, pour la Gambie également, qui vont d'abord dans un pays voisin, qui ensuite ont encore pour rêve d'aller en Algérie ou en Libye, et il se trouve que... À la grande surprise de ces enquêteurs, la Libye continue d'être attractive aujourd'hui pour ces jeunes, parce que peut-être que plusieurs décennies de rayonnement libyen en Afrique, d'argent déversé en Afrique, continuent de fonctionner, et aujourd'hui ces jeunes fuient la Libye véritablement. À la différence des Érythréens et des Soudanais qui tracent la route, qui vont vers le nord immédiatement lorsqu'ils arrivent en Italie, les Africains de l'Ouest ont tendance, me semble-t-il, à rester 3, 6, 9 mois en Italie pour constater que le problème de la langue, d'abord, les empêche de voir un avenir dans ce pays.
Il y a le problème de l'asile existentiel, on voit bien, là, qui dépasse l'asile politique au sens strict. Mais il y a quelque chose d'autre aussi, parce que je ne voudrais pas qu'on soit méchant simplement avec nous-mêmes. Ces gens, ils viennent de pays dont les dictateurs sont nos amis depuis 20 ans, je veux dire, et nous abreuvent, et notre personnel politique, de rétrocommissions de toute nature, et que nous feignons, avec leurs beaux costards, de considérer comme des gens sérieux, qui ont des droits de vote à l'ONU. Ils sont les victimes de leur propre gouvernement. Et j'attends avec impatience le moment où un ministre des Affaires étrangères interpellera un de ces hiérarques qui vient de faire un beau discours aux Nations Unies en disant « Dites, est-ce que votre premier devoir n'est pas d'offrir à votre peuple des conditions d'existence simplement décentes ?»
Merci François Sureau. C'était le magazine de la rédaction « Quand des mineurs africains sont abandonnés dans la montagne ». Reportage de Raphaël Kraft avec Annie Brault à la réalisation et Anthony Thomasson à la technique. Vous pouvez bien sûr retrouver ce magazine sur franceculture.fr.